je voyais les ouvriers qui tapaient marteau-pique, qui boisaient, qui tapaient, bordel, on n'entendait rien du tout.
Je voyais que des noirs travaillaient au fond et ils ne savaient pas parler, ils ne comprenaient rien du tout. Et j'ai pleuré pour me retourner chez moi. Mais...
En Italie, je suis venu au monde, je suis italien. Moi, c'est là que m'a donné la tartine et le courage que j'ai eu, c'est ici.
Je m'appelle Catherine Tonero, je suis petite fille de mineurs italiens et à l'occasion des 75 ans de l'accord charbon, je vais vous raconter leur histoire. Une des dernières occasions d'interroger les premiers témoins d'un passé qui a façonné la Belgique. Le charbon dans les veines, épisode 5. Nino, un récit qui réserve lui aussi bien des surprises, jusqu'à retrouver la trace de mes propres grands-pères, qui n'étaient autres que ses compagnons du fond.
Ça va,
et bonjour à monsieur.
Tu as
travaillé
en Asie aussi.
Tu as travaillé en Asie aussi. Ah ben, ça va.
J'avais 16 ans quand j'ai commencé, ici, à Chi.
Elle-même aussi.
Ça, je connais. La pelle, la foreuse, forêt plus grande. Il n'y a pas la machine pour ça.
Nous sommes au coron du charbonnage à Archi pour rencontrer Nino et Jeannot, un ancien mineur belge qui nous ouvre son musée de la mine et de la mémoire ouvrière.
Ça, c'était le boisage, le premier, tu vois, en bois.
Ça, c'est une pièce intéressante. C'est une tireuse de plomb.
Voilà. Voilà, c'est un exemplaire de plomb du fond.
Lors du démantèlement des charbonnages du Borinage, Jeannot a récupéré un tas d'outils du travail de la mine pour ne pas oublier.
J'ai voulu qu'on laisse, disons, un souvenir à ceux qui sont encore aptes à l'apprécier, parce qu'après, ça va être fini. Hein.
Pourquoi c'est si important?
Parce que c'est le vécu, c'est tout. C'est ce que nous avons vécu. Et il faut tout de même le dire, hein, c'était pas gay la vie. Hein.
C'est en 1954 que Nino arrive en Belgique. Son père est parti quelques années plus tôt pour sortir sa famille de la misère des Pouilles.
Mon père, on était 5 enfants, il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de chômage, rien, il ne touchait rien. Alors, pour vivre, mon père il allait dans les montagnes chercher du bois. Et avec ça, il vendait la moitié c'était pour nous. Et on s'achetait un kilo, 2 kilos de pain. Et on vivait avec ça.
Nino a 16 ans quand il quitte le sud de l'Italie. Il découvre alors la Belgique en plein hiver.
Il faisait froid. Avant sec, là, le 18 décembre. Et on habitait à les baraques pour aller en Zille. J'ai pleuré 6 mois derrière la fenêtre. Et je voyais que des noirs travaillaient au fond et ils ne savaient pas parler. Ils ne comprenaient rien du tout. Et j'ai pleuré pour me retourner chez moi. Mais...
Nino voulait être maçon. Il sera finalement mineur, comme son père, et passera 22 années dans le fond.
Je n'ai jamais oublié le premier jour que je suis descendu. Je descends le dernier avec Emporio. Lui devant, et moi, c'était le premier jour de travail. Mais on a passé dans une petite galerie. Moi, j'avais la pelle, j'avais mon sac à mallette, plus la lampe et tout ça. J'ai buqué la tête de partout, et lui courait comme un souris. Moi, je n'arrivais pas à le suivre. Tellement j'étais, c'est pas, j'avais un peu de peur quand même, hein, tu sais. Mais par après tout ça, j'ai appris, je courais plus que lui après.
La photo de gauche que vous voyez là-bas, oui. Celle de gauche, hein, elle servait à retirer le panzer. Donc,
en se remémorant leurs souvenirs, Nino et Jeannot réalisent qu'ils ont en fait parcouru les mêmes tailles de charbon de la région à la même époque.
Je me souviens, toi, c'est ça. Et comment donc?
C'est vrai?
Comment donc? Tu allais souvent en taille, hein, toi?
Suivant, oui, boisé, foudroyé.
C'est ça, foudroyé, oui. On était contemporains du charbonnage, c'est tout à fait.
Et vous ne saviez pas que Jeannot était encore vivant ici dans la région?
Non. Ça nous fait plaisir parce que, bon, des mineurs, je l'ai dit, dans plus beaucoup, quand on voit quelqu'un qu'on a connu, ça fait partie de la famille, c'est comme ça.
C'était une fraternité. On se croisait. Tu te souviens à ce moment-là, la lampisterie, quand on se voyait, les uns remontaient, les autres redescendaient. C'était un peu comme ça, ceux du poste de nuit remontaient, ceux du poste du matin descendaient. Il y avait 3 postes, en fait. Ça commençait de 6h jusqu'à 14h. L'après-midi, c'était de 14h jusqu'à 22h et de 22h jusqu'à 6h. Il y avait une limite. Regardez, monsieur, quand il a fallu monter ça ici, là-bas, avec les chaînes.
Donc, Jeannot nous présente la plus grosse pièce de son musée. Deux gigantesques chaînes auxquelles la cage d'ascenseur était suspendue.
Ça, c'est ce qui suspendait la cage. Une, vous avez la cage qui descend et l'autre, celle qui remonte.
Mais il y en a tiré du poids, ces chaînes-là. Tous les jours, monter, descendre, monter, descendre. D'ailleurs, moi, le plus que j'avais peur, c'est quand je descendais et je montais. Oui, parce que 700 mètres, un de notre village, en montant, qu'il avait terminé la journée, dans le gaillol, je jouais tout ça. Mais lui, il était chatouillot. Tu sais, tellement qu'il jouait avec, il s'est lancé contre la porte. La porte y a cédé et il est tombé dans le trou. On a presque rien trouvé de son cadavre.
Au cours de cette rencontre, Nino m'apprend qu'à la mine, il a aussi croisé et travaillé avec mes deux grands-pères, aujourd'hui disparus. L'un venait d'ailleurs du même village que lui dans les Pouilles. Il s'appelait Vincenzo Tancredi.
Les gens, ils ne savaient pas dire Tancredi et ils l'appelaient Vendredi. Tancredi, mais c'est la famille. Il y avait le numéro 497. Chaque ouvrière, il y avait son numéro. Les autres, je ne sais plus. Hein.
Mais Nino se souvient aussi de mon autre nono. Lui s'appelait Orlando. Il aurait eu 97 ans aujourd'hui.
On a travaillé tous ensemble, ça. On faisait tout le même travail. Seulement que Orlando était déjà chef, Tonero. Hein. C'était un brave, hein. Il comprenait le travail, lui. Hein. Mais il était nerveux. Des fois, quand il n'arrivait pas à faire, il prenait son casque, il mordait son casque dans ses dents. Et Orlando, c'était vraiment le feu. Hein. Le feu.
Après avoir retrouvé la trace de mes grands-pères et rencontré ces anciens mineurs, je comprends aujourd'hui mieux que jamais le grand sacrifice qu'ont fait tous ces hommes pour assurer un avenir à leur famille. Surtout, je comprends que ce qui les a fait tenir, ce sont ces liens de fraternité tissés dans le fond et le courage qu'ils ont eu à accomplir ensemble ce destin hors du commun. Je comprends enfin que ce qui les anime encore aujourd'hui, c'est la volonté ferme de transmettre leur vécu jusqu'au bout.
Ça me fait plaisir qu'on est encore là. Quand on se rend compte, s'il y a qu'il n'y a pas beaucoup de mineurs, c'est ça qu'il dit.
L'important, disons, de pouvoir montrer aux jeunes la difficulté que fut.
Si j'aurais une autre vie, ce serait pour recommencer, je le ferais encore.
C'est vrai?
Pour apprendre comme j'ai appris à beaucoup de gens. Ça fait plaisir de se retrouver. Vous pouvez venir voir dans sa
maison. Bien sûr, venez à...
Vous venez d'écouter le dernier épisode du Charbon dans les veines, à la rencontre des derniers mineurs italiens de Belgique, un podcast qui ravive la mémoire, réalisé avec Christophe Bernard. Merci à Lino, Sergio, Urbano et Fisio, Nino, Jeannot et tous les autres, à Pépère et Nono, pour m'avoir permis de faire partie de cette histoire. Pour découvrir toute l'offre de podcasts de La Première, rendez-vous sur Ovio ou lapremière.be.